VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 19 juillet 2023. Au Kenya, la police a dispersé aujourd'hui des manifestants rassemblés à l'appel de l'opposition contre la hausse des prix et de nouvelles taxes du gouvernement. Visé par un mandat d'arrêt à la CPI, Vladimir Poutine n'ira pas au sommet des BRICS en Afrique du Sud. En Afghanistan, des femmes manifestent à Kaboul contre la fermeture des salons de beauté. La canicule persiste dans tout l'hémisphère nord et le continent africain n'est pas épargné.
D'une part, on doit s'adapter à la vague de chaleur qui a lieu sur la partie nord de l'Afrique, mais on doit aussi s'adapter aux fortes précipitations pouvant entraîner des inondations sur la bande sahélienne.
André Kamga, directeur du Centre africain des applications en météorologie, nous précisera dans la partie magazine quelles sont les spécificités africaines dans la vague de chaleur en cours. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco, pour l'instant, le journal. Au Kenya, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes des manifestants rassemblés à l'appel de l'opposition dans plusieurs villes contre la hausse des prix et de nouvelles taxes. Le gouvernement avait promis de répondre fermement à tout débordement. Le point avec Alexandrine Olunion.
La coalition Azimio menée par le vétéran de l'opposition Raila Odinga a appelé à 3 journées de mobilisation contre la politique du président William Ruto qu'elle accuse d'aggraver la hausse du coût de la vie. Le gouvernement a placé la capitale Nairobi et plusieurs grandes villes sous haute surveillance policière. Les rues de la capitale habituellement animées ont été désertes et de nombreux commerces ont décidé de garder leurs rideaux baissés. Le gouvernement a aussi ordonné la fermeture des écoles publiques à Nairobi, à Mombasa et à Kisumu. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes contre de petits groupes de manifestants dans le bidonville de Kibera à Nairobi et dans les villes de Kisumu, Homabe, Kisi et Migori, des bastions pro-Odinga dans l'Ouest. C'est la 3e fois depuis début juillet que l'opposition organise de telles journées d'action. Les rassemblements précédents ont été émaillés de pillages et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Au moins 15 personnes ont été tuées et plus de 300 arrêtés.
Tournée du chef de la diplomatie chinoise en Afrique, la semaine prochaine, Wang Yi se rendra en Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya. Le chef de la diplomatie chinoise va participer au 3e sommet des BRICS sur la sécurité à Johannesburg les 24 et 25 juillet et visitera ces pays africains avant et après le sommet de ce bloc qui regroupe l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Wang Yi prévoit un voyage également en Turquie. Le président russe Vladimir Poutine ne va pas participer au sommet des BRICS prévu fin août à Johannesburg, a annoncé la présidente sud-africaine. Cela met fin à plusieurs mois de spéculations sur le sujet. Les précisions de John Lydon.
D'un commun accord, le président de la Fédération russe, Vladimir Poutine, ne participera pas au sommet, mais la Fédération sera représentée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a annoncé la présidence sud-africaine dans un communiqué. Cela épargne un dilemme à Pretoria qui préside les BRICS. Vladimir Poutine était invité du 22 au 24 août à Johannesburg au sommet de ces 5 grandes puissances émergentes, à savoir l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Le président russe est visé depuis mars par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud, qui a refusé de condamner l'invasion russe de l'Ukraine, était censée arrêter M. Poutine s'il devait fouler le sol sud-africain. Arrêter Vladimir Poutine serait une déclaration de guerre à la Russie et menacerait la sécurité, la paix et l'ordre de l'État sud-africain, a estimé hier le président Cyril Ramaphosa.
Au Rwanda, 10 enfants sont morts noyés après le naufrage lundi d'une embarcation dans une rivière du sud du pays, a déclaré aujourd'hui la police, qui a également annoncé avoir arrêté un homme suspecté de les faire travailler. Au moins 34 personnes ont été tuées et 12 blessées aujourd'hui lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire près de Tamaracet, dans l'extrême sud de l'Algérie, a annoncé la protection civile. L'accident, suivi d'un gigantesque mauvais incendie s'est produit lorsqu'un véhicule utilitaire a percuté, selon la gendarmerie, un autocar reliant Adra à la ville de Tamaracet, située à environ 2000 km au sud d'Alger. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a accordé aujourd'hui une grâce au chercheur Patrice Zaki et à Mohamed al-Bagher, l'avocat d'Alaa Abdel Fattah, le détenu politique le plus célèbre d'Égypte. Patrice Zaki a été condamné mardi à 3 ans de prison pour avoir dénoncé la discrimination visant les chrétiens, un verdict qui avait poussé plusieurs figures des droits humains à quitter le dialogue national lancé par le pouvoir.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité hors du continent, en Afghanistan, les forces de sécurité ont tiré en l'air et utilisé des canons à eau pour disperser des dizaines de femmes qui manifestaient à Kaboul contre la décision des talibans de fermer les salons de beauté. Ces Afghanes considèrent que c'est une restriction supplémentaire à leur liberté. Les détails avec Nani Talani.
Une cinquantaine de femmes ont pris part à la manifestation contre la décision de fermer les instituts de beauté à la fin du mois de juin. Nous avons organisé cette manifestation pour discuter et négocier, mais personne n'est venu nous parler, nous écouter. Ils ne nous ont prêté aucune attention et nous ont dispersés en tirant en l'air et avec des canons à eau, a déclaré une employée de salon. La fermeture des instituts de beauté va provoquer la disparition de milliers de commerces tenus par des femmes. Le ministère de la Prévention du Vice et de la Promotion de la Vertu justifie sa décision par le fait que les sommes extravagantes sont dépensées pour les mariages au détriment des familles pauvres et que certains traitements proposés ne respectent pas la loi islamique. Depuis août 2021, les talibans ont exclu les femmes des établissements d'enseignement secondaire, des universités et des administrations publiques, leur ont interdit d'entrer dans des parcs, jardins, salles de sport et bains publics et les obligent à se couvrir intégralement lorsqu'elles sortent de chez elles.
L'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord souffrent encore d'une chaleur extrême dans plusieurs régions où de violents feux de forêt font rage, comme en Grèce. Claire Morin-Gibou.
De la Californie à la Chine, les autorités ont mis en garde contre les dangers de ces températures élevées pour la santé. En Europe aussi, plusieurs régions ont été placées en alerte rouge en raison du danger extrême. En Italie, 27 villes pourraient atteindre 46 degrés aujourd'hui. Des centaines de pompiers luttent contre des incendies dans l'archipel des Canaries et en Grèce, où pour le troisième jour consécutif, une bataille énorme contre les flammes est menée à l'ouest d'Athènes et sur l'île de Rhodes. Les conditions météo sont difficiles en raison des vents forts qui attisent les incendies. En Asie, le Japon a émis des alertes aux coups de chaleur pour 32 de ses 47 préfectures. Et en Chine, Pékin a battu un record avec 27 jours consécutifs de températures supérieures à 35 degrés Celsius. Aux États-Unis, les services météo observent une vague de chaleur oppressante dans le sud. Plusieurs feux violents en Californie ont entraîné l'évacuation de populations. Au Canada, plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, avec plus de 850 feux toujours actifs.
La chaleur extrême sur l'hémisphère nord exerce une pression accrue sur les systèmes de santé. D'après le chef de l'OMS, les chaleurs extrêmes frappent de plein fouet les personnes âgées, les nourrissons et les enfants, ainsi que les personnes pauvres et les sans-abri. Elle exerce également une pression accrue sur les systèmes de santé, a déclaré le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse. Joe Biden a exhorté aujourd'hui le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou à ne pas précipiter ses réformes alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent chaque semaine depuis des mois dans l'État hébreu contre un projet de réforme du système judiciaire. Dans une critique inhabituellement directe de la politique intérieure d'un des alliés les plus proches des États-Unis, le président américain a déclaré à un éditorialiste du New York Times que le premier ministre Benjamin Netanyahou devrait procéder avec prudence. Le président israélien Isaac Herzog, qui joue un rôle largement protocolaire, a rencontré hier Joe Biden ici à Washington et doit donner un discours devant les deux chambres du Congrès américain ce mercredi. Un juge fédéral a rejeté aujourd'hui la demande d'appel formulée par Donald Trump après sa condamnation civile le 9 mai dernier pour avoir agressé sexuellement une ancienne journaliste et écrivaine dans les années 90 et l'avoir diffamée en la qualifiant de menteuse. Le jugement rendu en mai n'est pas une erreur judiciaire et les jurés ne sont pas parvenus à un résultat gravement erroné, a conclu Lewis Kaplan, juge du district de Manhattan, dans sa décision de 59 pages. À l'issue du procès civil, les 9 jurés d'un tribunal fédéral de Manhattan avait décidé d'accorder environ 5 millions de dollars de dommages et d'intérêts à la journaliste E. Jean Carroll. Et puis l'Ukraine a dit aujourd'hui s'attendre à ce que la contre-offensive qu'elle a lancée pour reprendre les territoires sous occupation russe soit longue et difficile, disant avoir notamment besoin de nouveaux chars occidentaux et d'avions F-16. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouhamadou Mfa.
Au Kenya, le gouvernement a approuvé mardi un projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce projet de loi devrait imposer des sanctions sévères sur les personnes reconnues coupables, en plus de l'identification, du traçage, du gel, de la saisie et de la confiscation des produits du crime. Il prévoit aussi le relèvement du seuil de déclaration des transactions en espèces de 10 000 à 15 000 dollars américains. Le président angolais João Lourenço a déclaré mardi qu'il reste encore du travail à faire pour créer un climat d'affaires davantage favorable dans son pays. À l'occasion de l'ouverture de la 38e édition de la Foire internationale de Luanda, il a tout de même assuré que le dit climat des affaires s'améliorait pour les investisseurs étrangers avec des procédures de visa simplifiées et des mesures anticorruption efficaces. La Tunisie a assuré l'exportation de sa première cargaison sous le régime de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agissait à cette occasion de 60 tonnes de résine d'une valeur d'un peu plus de 100 000 dollars expédiées au Cameroun. Entrée en vigueur en mai 2019, la ZLECA est l'un des principaux projets de l'Union africaine qui vise à renforcer la coopération sud-sud et à consolider les relations commerciales entre les États membres de l'Union africaine.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La Coupe du monde féminine débute demain jeudi 20 juillet.
Oui, 32 nations se lancent dans la course à la succession des États-Unis, champions en titre, dans cette 9e édition du mondial féminin, co-organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné demain jeudi avec le match Nouvelle-Zélande-Norvège à Auckland, le jour même où l'Australie joue contre l'Irlande à Sydney, à guichet fermé, soit devant 80 000 spectateurs. L'Afrique compte sur ses 4 représentants, le Nigeria qui fait son entrée en lice le 21 juillet face à un gros morceau, le Canada, dans le groupe B. Dans la poule C, on aura Zambie-Japon le 22 juillet et Suède-Afrique du Sud le lendemain. Le dernier représentant africain, le Maroc, effectue sa première sortie le 24 juillet face à l'Allemagne dans le groupe H.
André Onana confirme son envie de jouer à Manchester United.
Je suis quelqu'un qui cherche toujours de nouveaux défis et jouer en Premier League pour un club comme United est irrésistible, a déclaré le gardien de but camerounais de l'Inter Milan. André Onana devrait signer avec Manchester United pour un montant estimé par les médias à 55 millions d'euros après avoir rejoint l'Inter Milan l'été dernier en tant que joueur libre. Il a participé avec le club italien à la finale de la Ligue des Champions, perdue contre Manchester City. Écarté par le sélectionneur camerounais Rigobert Song lors du dernier mondial pour des raisons disciplinaires, Onana a mis un terme à sa carrière internationale après 34 sélections avec les Lions Indomptables.
Benjamin Mendy signe à Lorient.
Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd'hui la signature pour 2 saisons du latéral gauche international français, a indiqué le club dans un communiqué presque 2 ans après le dernier match officiel du défenseur de Manchester City. Benjamin Mendy a été acquitté vendredi dernier par la justice britannique de l'intégralité des accusations de viol et tentative de viol qui pesaient contre lui. Manchester City, qui l'avait suspendu, n'a pas renouvelé son contrat qui était arrivé à échéance le 30 juillet.
Athlétisme, Toby Amusan, suspendu.
La championne du monde et recordwoman du monde nigériane du 100 mètres haies a été suspendue provisoirement pour 3 manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation dans le cadre de la lutte antidopage. C'est l'annonce faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme qui précise que le tribunal disciplinaire se réunira pour cette affaire avant les championnats du monde d'athlétisme prévus du 19 au 28 août à Budapest. « J'ai l'intention de me battre contre ces accusations », a déclaré Toby Amusan, ajoutant « Je suis une athlète propre et je suis régulièrement contrôlée par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. J'ai été contrôlée dans les jours qui ont suivi mon troisième contrôle manqué », a poursuivi la Nigériane de 26 ans. Tobias Moussan a battu le record du monde du 100 mètres haies en 12 secondes 12 centièmes l'an passé aux Mondiaux. Elle a participé dimanche à la Silesia Diamond League en Pologne où elle a établi un nouveau record du meeting en 12 secondes 34 centièmes.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République centrafricaine, le projet de la nouvelle constitution soumise à référendum le 30 juillet divise la classe politique, particulièrement les dispositions relatives à la double nationalité et au mandat présidentiel illimité qui passe de 5 à 7 ans. Félicie Passis Zembrou a recueilli la réaction de Fidel Gwanjika, conseiller spécial du président centrafricain à Bangui.
La campagne a démarré, mais je puis vous dire qu'il y a un engouement terrible en République centrafricaine qui présage de l'organisation effective de ce référendum aux dates précises.
Le BRCD a fait une marche vendredi dernier et Martin Zigilé a fait part de leur volonté de boycotter ce référendum. Qu'en dites-vous?
Le BRD n'est pas représentatif de l'opposition démocratique en Centrafrique. Nous avons à peu près une trentaine de partis et aujourd'hui, il y a une bonne frange de l'opposition démocratique qui soutient ce processus qui est en cours et qui est irréversible.
D'autres s'insurgent justement contre certaines dispositions du projet de la nouvelle constitution relative notamment à la centrafricanité et à la non-limitation du mandat présidentiel. Que répondez-vous à ces gens-là?
Les grandes démocraties que nous connaissons, je peux même prendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, l'exemple de la France, des pays de l'Union européenne, pour briguer la magistrature suprême de l'État, il faut avoir la nationalité de cet État et y être né. Et donc, ce n'est pas une première en République centrafricaine. La Constitution de janvier 1995 stipulait dans un de ses articles que pour briguer la magistrature suprême de l'État, il faut n'avoir que la nationalité centrafricaine. Et donc, ça, c'est une préférence nationale qu'on retrouve dans tous les pays du monde. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un qui ait une nationalité étrangère vienne assurer la présidence d'une république et porter deux drapeaux.
Oui, oui, c'est ça. En ce qui concerne l'autre volet, la non-limitation du mandat présidentiel qui passe maintenant de 5 à 7 ans.
Beaucoup de pays l'ont fait. D'autres pays passaient de 5 à 7 ans. D'autres pays passent de 7 ans à 5 ans. Ce qui diminue la durée de mandat, ce sont surtout des pays industrialisés où il n'y a pas grand-chose à faire en matière d'infrastructure de base. Je voudrais prendre par exemple le cas de la France que nous connaissons très bien. Avant, c'était 7 ans, M. Mitterrand en fait 14 ans, M. Chirac aussi. Et quand c'est arrivé au temps de François Hollande, je suppose, ils ont réduit cela à 5 ans parce que chez eux, ils pensent qu'une alternance de 5 ans est suffisamment étoffée pour mettre en chantier les projets de société pour lesquels le peuple leur a donné confiance. Ici, chez nous, tout est à refaire. Donc, le passage de 5 à 7 ans permettra à celui qui va être élu, et s'il a la chance d'être réélu, il aura 14 ans devant lui pour développer le pays.
Fidel Gwanjika, conseiller spécial du président centrafricain.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Depuis plus d'une semaine, des centaines de Burkinabés, principalement de l'ethnie Peul, ont été expulsés du Ghana. Certains ont été accueillis et installés à Dakola, une commune burkinabé située à la frontière avec le Ghana. Notre correspondant Gildas Da s'est rendu sur place. Reportage.
Riga, perdu dans le vide, Aïcha, nom d'emprunt, se demande ce qui a bien pu se passer pour qu'elle et les siens soient expulsés du Ghana. Elle vivait dans ce pays depuis plus de 10 ans.
Je revenais du Marigo quand j'ai vu les militaires en train de frapper nos hommes. Je suis alors partie pour chercher mes enfants dans notre maison et ils m'ont frappée.
C'est ainsi qu'elle et certains membres de sa famille, dont ses 5 enfants, seront ramenés de force au Burkina sans rien.
On n'a rien pu prendre comme biens et argent.
En fait, elles sont des centaines à avoir été chassées du Ghana, des personnes expulsées, installées temporairement dans une école de Dakola, commune située à la frontière avec le pays de Kwame Nkrumah. Et pour ces personnes, impossible d'emporter quoi que ce soit. C'est ce que nous dit ce proche de personnes expulsées. Le sujet est tabou et personne ne souhaite parler à visage découvert sans l'autorisation de l'administration.
Tous les biens sont restés au Ghana, ainsi que les animaux. Personne n'a pu emporter même un poulet.
Et il y a bien pire.
De nombreuses femmes ont leurs enfants qui sont restés au Ghana. Parce que quand ceux qui expulsent viennent, ils t'en battent comme ils t'ont trouvé. Beaucoup de femmes n'ont pas pu prendre leurs enfants avec elles. Parmi ces enfants, il y a des nourrissons. Ceux qui sont allés les expulser ont refusé de les écouter. L'armée ghanéenne continue toujours d'expulser les gens là-bas.
Courant semaine passée, des membres du gouvernement burkinabé étaient passés pour s'enquérir de la situation. Le nombre de personnes expulsées montait alors à 250, chiffre officiel. Depuis, à Dakola, de nouveaux arrivants sont venus grossir les rangs des expulsés dont certains vivaient au Ghana depuis plus de 20 ans. Et selon nos informations, d'autres vagues d'expulsion seraient en cours. Ici, ces hommes et femmes chassés du Ghana ont été transférés sur de nouveaux sites gardés par des forces de défense et de sécurité. Le Ghana, quant à lui, affirme n'être pas au courant d'expulsion de Burkinabé de son territoire. Gildas Da, de retour de Dakola, VOA Afrique.
Les records de température sont battus partout dans le monde. L'Europe, mais aussi les États-Unis, le Canada et la Chine souffrent de vagues de chaleur intenses. Le continent africain n'est pas épargné. Le Maroc connaît des températures entre 37 et 47 degrés Celsius dans plusieurs provinces. Claire Morin-Gibou a joint le directeur du Centre africain des applications en météorologie, André Kamga.
Effectivement, en ce moment, nous avons des vagues de chaleur, en particulier sur le nord-ouest de l'Afrique, donc la zone du Maroc, par exemple, et puis sur toute la bande est et australe, donc Kenya jusqu'en Afrique du Sud. Mais sur cette zone-là, n'étant pas en période d'été, il y a une augmentation de température que l'on voit par rapport à la moyenne de la période. Donc, ce n'est pas des seuils particulièrement alarmants là-bas, mais c'est surtout sur le nord-ouest, autour du Maroc, que c'est significatif.
L'ACMAD est basé à Niamey. Le Sahel est une des régions qui est fortement touchée par les grosses vagues de chaleur. Comment l'Afrique s'adapte et que doit-elle faire pour mieux s'adapter justement à ces vagues de chaleur?
Il se trouve que l'Afrique est très vaste. Pendant qu'il y a ces vagues de chaleur sur la partie nord du continent, c'est étroitement lié à une période de saison de pluie très, très active sur la bande sahélienne, par exemple. C'est-à-dire qu'actuellement, pendant qu'il fait très chaud au Maroc, il y a beaucoup de pluie sur la bande sahélienne juste au-dessus de Sahara. Donc, d'une part, on doit s'adapter à la vague de chaleur qui a lieu et sur la partie nord de l'Afrique, mais on doit aussi s'adapter aux fortes précipitations pouvant entraîner des inondations sur la bande sahélienne. Donc, ce qui se fait en Afrique actuellement depuis quelques années, c'est la mise en place des systèmes d'alerte précoce. Et ces systèmes d'alerte précoce sont structurés au niveau continental, donc au niveau de l'Union africaine, au niveau régional, dans les regroupements économiques régionaux et au niveau national. Pour l'instant, nous sommes encore en train de mettre en place cette architecture institutionnelle à 3 niveaux pour pouvoir faire l'alerte, qui apparaît comme le moyen d'adaptation le plus apporté.
Qu'est-ce que vous pensez que l'Afrique peut apporter au monde occidental et qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'Afrique qui souffre depuis longtemps de très grosses saisons avec des températures extrêmement élevées?
Concernant en particulier la bande sahélienne, qui a ses vagues de chaleur plutôt en mars-avril et parfois début mai, il y a une tradition d'adaptation qui se caractérise par la plantation des arbres. Nous avons pris le temps de comparer les températures à l'ombre d'un arbre et les températures en plein air en ville. Quand vous êtes sous l'arbre, il n'y a pratiquement pas ce seuil de température extrême qui est atteint. Donc ici, par exemple, au Niger, il y a des journées pour planter les arbres. Pendant certains événements, certaines fêtes, on encourage les populations à planter les arbres et ça constitue un moyen d'adaptation tout à fait remarquable.
André Kamga, directeur du Centre africain des applications en météorologie, basé à Niamey au Niger. En sport, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'équipe féminine du Maroc dans notre série sur la présentation des quatre formations prenant part au Mondial féminin qui commence demain jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Même si elles y vont en novice, les Lions de l'Atlas souhaitent emboîter le pas à leurs homologues masculins qui ont fini quatrième lors du Mondial au Qatar en décembre dernier. Les filles du coach français Reynald Pedros misent sur une bonne préparation et une parfaite entente pour tenter de bousculer leurs adversaires. Yacouba Ouedraogo.
Premier pays arabe à se qualifier pour une Coupe du Monde féminine, le Maroc espère faire parler de lui en Australie et en Nouvelle-Zélande, moins d'un an après l'exploit du 11 masculin qui a atteint les demi-finales du Mondial au Qatar. Malgré les énormes différences entre les équipes masculines et féminines marocaines en termes d'histoire et de profil, les dames insistent sur le fait qu'elles sont bien préparées pour la plus grande scène du foot féminin. Salma Amani, joueuse du Maroc.
Nous travaillons tous les jours, nous déployons tous nos efforts pour être prêtes et bien préparées pour le début de la Coupe du Monde.
Pour le début des matchs amicaux ou la compétition.
Gizlan Chebak, elle, décrit une bonne atmosphère qui règne durant les séances d'entraînement.
L'harmonie règne au sein de l'équipe. Nous nous traitons comme une famille. Il y a une bonne harmonie entre joueuses et nous nous entraidons pendant la préparation.
Nouhaïla Benzina joue pour le club de Far de Rabat et pour la sélection nationale. Elle a été retenue pour le Mondial.
Au terme d'une longue lutte, nous avons enfin pu nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup travaillé avec les entraîneurs, nos clubs et avec l'équipe nationale. Un travail acharné effectué pendant de nombreuses années et qui a eu un résultat positif. Nous espérons être à un haut niveau pour honorer les Marocains.
Avec le soutien de sa fédération, le Maroc a réussi à remporter le tournoi féminin de l'Union du football nord-africain en 2020 en Tunisie, avant de terminer vice-champion de la CAN féminine 2022 à domicile. En match amicaux, les Lions de l'Atlas ont obtenu deux résultats nuls, 0-0 contre la Suisse et l'Italie, et perdu contre la Jamaïque 2-0. Pour leur premier mondial, les Marocaines veulent tout donner. Yasmine Zouhir, attaquante du Maroc.
On a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde et de représenter au mieux notre pays et tout donner pour le peuple marocain.
L'équipe de Reynald Pedro débute sa campagne dans le groupe H le 24 juillet contre l'Allemagne, qui a soulevé le trophée à deux reprises en 2003 et 2007 et qui a aussi remporté trois titres de championne d'Europe. Le Maroc va ensuite croiser la Corée du Sud le 30 juillet avant de terminer la phase de groupe contre la Colombie le 3 août. Me in the hallway and you don't think I can see it, do you? I've been watching you for ages and I spend my time trying not to feel it. What would you do if I went to touch you now? What would you do if they never found us out? What would you do if we never made up? Sometimes
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.